Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour une nouvelle rencontre consacrée à la traduction, animée par Corinna Gepner, qui est en résidence chez nous depuis septembre avec le soutien de la région Île-de-France. Et ce soir, Corinna reçoit Luba Jorgensen avec grand plaisir. Merci. Pour deux livres qui viennent de paraître, un à la Contre-Allée, Sortir de chez soi, et l'autre chez Verdier, Quand nous nous sommes réveillés. Je passe la parole à Corinna.
Merci. Merci. Merci beaucoup Sophie. Donc bienvenue à cette nouvelle rencontre ce soir avec Luba Jorgensen, que nombre d'entre vous connaissent sans doute déjà, mais je vais simplement rappeler quelques petites choses en ce qui la concerne. Luba donc est née à Moscou et vit en France depuis les années 70. Elle est écrivaine, traductrice. Elle enseigne à l'université la littérature russe à Sorbonne Université. Elle travaille également en tant que directrice de collection aux éditions Verdier, où elle co-dirige la collection Poustiaki. Et puis, donc, pour citer quelques-unes des écrivains et écrivaines qu'elle traduit, Nina Berberova, Marina Tsvetaeva, Varlam Shalamov ou encore Vassili Grossman. Et vous trouverez du reste une bibliographie présente ici sur cette étagère pour ceux et celles qui ont, et près de la caisse bien évidemment, placée de façon tout à fait stratégique à cet endroit, et donc pour ceux et celles qui auraient envie de prolonger la rencontre en achetant les livres. Et juste pour souligner aussi la richesse de ton œuvre d'écrivaine, puisque tu as publié des essais, des romans, de la poésie, et donc c'est une œuvre qui s'attache à explorer de multiples dimensions de l'écriture. Et donc aujourd'hui nous nous rencontrons pour parler de deux livres qui sortent conjointement. Un livre qui s'appelle donc Sortir de chez soi, qui s'inscrit dans la collection Contrebande des éditions La Contre-Allée, collection dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et de rappeler la genèse, qui donne la parole aux traducteurs et aux traductrices en leur demandant de se faire écrivain et de raconter ce qui les anime en traduction, ce qui les fait traduire. Non pas donc en théoricien, mais dans tout ce qui les habite et qui les amène à traduire. Et puis un deuxième texte qui sort aux éditions Verdier, un court texte sur l'invasion de l'Ukraine qui s'appelle « Quand nous nous sommes réveillés, nuit du 24 février 2022, invasion de l'Ukraine ». Je disais à Luba que je trouvais difficile de rendre justice à la richesse, l'incroyable richesse et au foisonnement de ces deux textes, et que je n'avais pas très envie de les enfermer dans un carcan de questions, et que par conséquent, et je crois qu'on est tombé d'accord là-dessus, on allait déambuler ensemble dans ces deux textes et se permettre toutes les digressions et, et les divagations possibles, parce qu'il me semble que ça, ce serait tout simplement traduire au mieux, si je puis dire, l'esprit de ces deux textes. Alors peut-être pour commencer, Luba, peux-tu nous parler de cette sortie conjointe et de l'effet que ça produit peut-être?
D'abord, merci beaucoup, merci à tous d'être là, merci beaucoup pour cette invitation dans cette librairie que j'adore. Et effectivement, c'est un peu le hasard des aventures éditoriales et aussi des temps compliqués que nous vivons depuis déjà 2020, qui a fait que ces deux textes sortent ensemble. Ils n'ont pas du tout été écrits en même temps. Et il est très étrange, alors je suis à la fois très heureuse de les voir si bien s'accorder jusque dans les couleurs. Oui. Et en même temps, ça a produit un effet très étrange, parce que Sortir de chez soi, donc ce texte sur la traduction, a été écrit pendant le Covid. Et je pense qu'on sent dans ce texte ce vide fécond, parfois, dans lequel nous étions suspendus pendant cette période. Je pense que je le dis même quelque part, qu'on sera étonné de lire ce texte et de se dire, mais en fait, elle vit dans un monde parallèle, elle ne parle pas du tout, par exemple, des gilets jaunes. Voilà, mais aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, il est vrai que les gilets jaunes, en tout cas pour moi, c'est passé un peu au second plan. En tout cas, c'est un livre, alors Sortir chez soi, c'est un livre, c'est une sorte de parenthèse. Et d'ailleurs, je le termine sur un rêve dans lequel j'ai entendu une voix me dire, mais pourquoi tu t'acharnes à écrire des textes cohérents, des romans, alors que l'esprit souffle dans les parenthèses. Donc ça correspond très très bien à ce livre. Et il a été écrit en grande partie pendant, j'ai mis dans ce livre des traductions qui ne sont pas parues, qui sont des divagations, hein, et qui ont été faites pendant l'heure où on avait le droit de sortir. Et donc je sortais pendant une heure, enfin vous vous souvenez tous de cette période, et je faisais toujours le tour du quartier, toujours le même. Et voilà, et donc c'est pendant ce petit tour du quartier que j'ai essayé de traduire un poème de Mandelstam, un poème de Khodasevich, et voilà. Et donc je livre en fait cette expérience-là, mais à travers des poèmes, des tentatives de traduction de poèmes. Et c'est vrai que quand je vois ce livre, ce qui est très étrange, c'est que je me dis, je n'étais pas la même personne quand je l'ai écrit. Je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui parce que entre-temps il y a eu l'invasion de l'Ukraine qui a bouleversé énormément de choses, qui a bouleversé parce que comme Corinna l'a dit, je suis une vieille émigrée, je suis à Paris depuis 1975. Alors quand je suis arrivée à Paris, les vieux émigrés c'était les émigrés blancs, ils étaient encore là, et maintenant c'est moi qui suis une vieille émigrée. Et je vois arriver les gens qui fuient la Russie aujourd'hui, et ça me renvoie d'une certaine manière à la fois à mon expérience de l'émigration, et puis je suis aussi une émigrée peut-être définitive, parce que je ne vois pas actuellement la possibilité d'aller un jour en Russie. Voilà, et tout ça, donc ça me bouleverse aussi, ça bouleverse ma vie de chercheuse, parce que je travaille sur la violence des masses, la violence de masse, pardon, et non pas la violence des masses, mais la violence contre les masses, la violence politique, la violence stalinienne, la Shoah, et voilà. Et mais j'avais quand même le sentiment de travailler sur le passé pour aller vite, même si c'est un passé qui ne passe pas. Et là, il y a une telle fulgurance du présent que ça remet en question énormément de choses. Donc sur le plan personnel, sur le plan professionnel, en tant que traductrice aussi. Et voilà, et donc le 24 février, j'ai laissé en plan tout ce que j'étais en train de faire, je ne pouvais plus toucher. Je n'y arrivais plus parce que ça n'avait plus vraiment de sens. Et j'en parlais à mes éditrices chez Verdier, qui m'ont dit, mais il faut que tu écrives ça, enfin, il faut que tu écrives ce que tu es en train de nous raconter. Et donc ce livre est un peu le fruit de ce désarroi, de ce moment de bouleversement. Donc c'est à la fois un livre très personnel, parce que en fait je raconte par quel biais cette invasion me touche. C'est aussi un livre dans lequel, en annexe, j'ai essayé de déconstruire quelques propos de propagande et quelques idées reçues sur l'Ukraine. Donc c'est un petit peu c'est le fruit aussi d'une... Alors, bien sûr, sortir chez soi aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les éditeurs de la Contre-Allée, Rosie, avec les autres personnes qui étaient à l'origine de cette initiative. Tandis que quand nous sommes réveillés, c'est un livre, donc comme je l'ai dit, pour lequel le dialogue avec mes éditeurs a beaucoup compté. Quelqu'un m'a dit, donc aux éditions Verdier, ce livre n'aurait jamais dû voir le jour. En fait, c'est un livre qui n'aurait pas dû être écrit. Et c'est exactement comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été écrit parce qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et voilà, je suis très contente de vous le présenter. Mais pour moi, ça définit bien ce livre. C'est le livre qui n'aurait pas dû être écrit, comme ce qui se passe, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Voilà, et donc quand je dis, j'ai l'impression que ces deux livres n'ont pas été écrits par la même personne, parce que l'une est complètement en dehors du politique et de l'engagement, etc. Et l'autre, c'est celle qui est entrée dans l'association Mémorial, qui... Il y a une forme d'engagement dans ce livre qui n'aurait pas été possible, qui ne se présentait pas, qui n'était pas à l'ordre du jour quand j'ai écrit le premier.
Merci beaucoup, je crois que ça éclaire grandement ces deux ouvrages, et puis on y reviendra parce qu'il y a évidemment une chronologie, et puis on essaiera de tirer un fil, notamment le fil de la langue, pour essayer de voir ce qui peut se jouer justement d'un ouvrage à l'autre. Et je reprends une phrase que tu as écrite dans le petit ouvrage sur le réveil, je vais dire. C'est une phrase que j'ai trouvée éminemment émouvante et qui illustre bien ce que tu viens de dire. Je ne sais pas voir le présent parce que toute ma vie j'ai observé le passé, et d'une certaine manière tu as été obligée de voir le présent. Et ça t'a arraché, alors non pas au passé, mais en tout cas, le présent est une déchirure en quelque sorte. Et peut-être que ce que nous pourrions faire avant de commencer à discuter plus avant de ces deux livres, c'est... en fait, je voulais te demander de commencer par lire un passage de Sortir de chez soi, mais en fait, non. Je te propose plutôt de commencer, de lire en fait le début de...
Merci. Je marche sur un sentier boueux. Des abeilles incandescentes bourdonnent dans la brume. J'ai peur de glisser avec ma lourde valise. Quelqu'un dit « Regarde ton bras gauche ». Des flammes courent sur ma manche. Je jette la valise et me mets à retirer les lambeaux noircis qui se détachent avec la peau. Hérissé de flammes, mon horizon gauche, déjà la cendre serpent rampe aux confins et mort. Il faut arracher, jeter la peau du rêve. Je tends ma main vers le téléphone portable près du lit. 4h30 du matin, je lis « La Russie bombarde l'Ukraine ». Non, ce n'est pas cela, je me suis réveillée par la mauvaise porte. Je dois rebrousser chemin. Impossible, me voilà épinglée au mur dans une salle de classe. Quelqu'un dit « Elle ne sert plus à rien ». Passe un mendiant, cherche sous mes lambeaux quelque chose qui puisse encore servir. D'un coup de pied me rend aux ordures, agacé devant un objet aussi inutile que la carte de l'Europe. Les frontières sont des animaux nocturnes. Elles bougent pendant que nous dormons. Il faudrait toujours veiller.
Merci. Je pensais très important de faire entendre ces textes, et notamment là, ce début de « Quand nous nous sommes réveillés », parce qu'il montre tout de suite, enfin, il nous introduit tout de suite dans une forme de dimension onirique qui est, je trouve, une constante de ces deux textes-là, et qui se tisse de façon très subtile à la réalité, entre guillemets, qui est une façon d'approcher peut-être la réalité, de l'approcher de manière métaphorique, de faire un certain nombre de détours et de déambulations qui ne sont pas des contournements, mais une meilleure manière en fait d'approcher les choses. Et avant toute chose, j'aurais souhaité que tu nous dises un peu plus précisément pourquoi tu l'as appelé « Sortir de chez soi », parce que je crois que justement on est en plein dans le cœur du sujet en réalité.
C'est vrai, je voudrais juste ajouter que ce côté onirique dans « Quand nous sommes réveillés » m'est venu d'abord parce que après le 24 février, tous les gens que je rencontrais me disaient « on a envie de se réveiller ». Et moi, c'est ce que j'éprouvais aussi. Et tout d'un coup, quelque chose, je me suis dit « mais au fond, on partage quelque chose ». Et il y a un « nous ». Alors pour moi, le « nous » n'existait pas tellement. Et là, tout d'un coup, quelque chose se tissait dans une, dans un partage de cette sidération qui se traduisait par les mêmes mots chez les différentes personnes pendant les premiers jours qui ont suivi l'invasion. C'est amusant d'ailleurs que tu me poses cette question parce que à un moment je me suis dit mais ce titre est plat, il faut que je le change. Et je cherchais vraiment, et j'en ai passé en revue un certain nombre. Puis je me suis dit bah non, en fait c'est ça, c'est sortir de chez soi. Et sortir de chez soi, bah, ça correspond à mon expérience de traductrice puisque je traduis non pas vers ma langue maternelle. Mais vers ma langue acquise, le français. Je dis toujours que le français est ma langue natale parce qu'on peut naître plusieurs fois dans une vie. Alors, évidemment, je parle de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que traduire vers sa langue maternelle. Mais pour mes collègues, souvent, c'est ramener chez soi quelque chose. C'est ramener chez soi la culture de l'autre. Voilà, et moi je n'ai pas cette expérience-là. Donc moi je suis sortie de chez moi et je ne suis plus rentrée. Et donc le titre c'est ça. Voilà, ça traduit cette expatriation.
C'est très intéressant de t'entendre dire ça parce que pendant que je t'écoutais, je me dis. J'ai pas le sentiment, puisque je traduis en ce qui me concerne vers ma langue maternelle, je n'ai pas du tout le sentiment de ramener quelque chose chez moi, en fait, qui serait extérieur, étranger, de l'amener chez moi. Ce chez moi qui vaut ce qu'il vaut, enfin je veux dire, c'est une formule qu'on peut employer à défaut d'une autre, tout d'un coup prend des allures sacrément bizarres, en fait, quand je traduis. Et c'est plutôt, enfin, voilà, il perd sa familiarité et il y gagne une forme d'étrangeté qui est irréductible, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, et je ne crois pas être la seule à faire ce type d'expérience. Donc cette sortie d'une manière ou d'une autre est toujours finalement vers quelque chose d'étranger, quel que soit le point de départ. Qui est assez intriguant.
Oui, c'est peut-être un fantasme justement de quelqu'un qui a quitté sa langue maternelle. En tout cas, qui n'habite plus sa langue maternelle de façon organique. Et c'est peut-être un fantasme qui permet finalement de saisir quelque chose qui est propre à la traduction. Et c'est vrai que j'ai conscience de... Bon, un peu, j'y pense un peu moins maintenant, parce que ça fait quand même presque 50 ans que je suis en France. Et ça fait plus de 40 ans que j'écris en français. Quelque part, il me reste cette sensation d'être une hérétique, parce que quand j'ai commencé à traduire, tout le monde me disait « mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas traduire vers le français, ça n'existe pas ». Voilà, donc j'ai gardé un peu cette conscience de quelque chose que je fais quelque chose qui, encore une fois, hein, finalement, je ne fais que des choses qui ne devraient pas se faire.
Mais je crois que là, en l'occurrence, tu en as assez bonne compagnie parmi les traducteurs, en tout cas les traductrices. Parce que oui, en fait, on se retrouve à essayer de conjuguer le familier et l'étranger. Et on ne peut pas en faire l'économie, je crois. Il n'y a rien de rassurant dans la démarche qui consiste à traduire d'une langue dite étrangère vers sa langue maternelle. C'est un exercice hautement déstabilisant, je crois. Et j'ai été très, très intéressée par ce que tu dis sur la langue et sur le texte initial, qui est ce qui signe le point de départ de cette aventure assez étrange en quoi consiste la traduction. Tu as une manière très particulière de parler de la langue comme de quelque chose qui est immaîtrisable ou qu'on s'efforce plus ou moins de contenir, mais qui vient déborder en quelque sorte. Alors en l'occurrence le traducteur, mais peut-être aussi l'écrivain. Est-ce que j'ai bien senti ce que tu essayais de formuler là ?
J'ai toujours été aussi attentive, effectivement, en tant que traductrice. C'est un mystère, ça reste quand même un mystère. Et ça reste un miracle. Enfin, chaque fois que j'écris, ou enfin, en tout cas quand je traduis, j'ai vraiment la sensation que c'est un miracle que les mots d'une langue puissent être avoir des équivalents, même si ce n'est pas tout à fait équivalent, hein, mais qu'on puisse traduire d'une langue vers une autre, c'est tout à fait extraordinaire. Donc je ne cesse de m'émerveiller devant ce miracle. Et il est vrai que j'essaie de parfois d'observer comment ça se fait, comment ça se passe concrètement. Mais c'est très très difficile d'observer la langue dans laquelle on pense, parce qu'il faut arrêter de penser, mais du coup on ne peut plus observer. Donc c'est donc il faut vraiment saisir comme ça des bribes de ce qui se passe à ce moment-là dans la tête. Et je suis particulièrement sensible à ce brouhaha de la langue, ou ce balbutiement, comme dirait Barthes, ce brouhaha de la langue dans lequel, dont naît un texte. Alors là encore, c'est peut-être, voilà, je projette parce que mes textes à moi naissent d'une sorte de rumeur, de brouhaha. Il y a quelque chose d'un peu informe au départ qu'il faut écouter et qui va finir par se cristalliser. J'essaie de saisir ce qui se passe quand, voilà, comment faire pour ne pas, quand on traduit, pour ne pas évacuer cette phase-là. Parce que moi, je n'étais pas là quand le texte est né dans la tête de l'auteur. Donc je réinvente, hein, cette origine fantasmée qui n'en est pas une. J'ai l'impression que si je ne me laisse pas déborder, il n'y aura pas de texte. C'est la condition même, hein, de l'écriture, enfin de la traduction différemment, hein. D'en sortir de chez soi, j'ai essayé de saisir la différence entre l'écriture et la traduction. C'est extrêmement ténu et très très difficile. À un moment, j'ai voilà, en fait, toutes les il y a quelques pages consacrées à ça, et chaque fois que j'invente un critère, finalement je suis obligée de le déconstruire parce que ça ne marche pas tout à fait. Donc j'ai l'impression qu'on se met plus en danger quand on écrit, mais plusieurs traducteurs m'ont dit que ce n'était pas vrai. Donc voilà, donc je retire ce que j'ai dit. Bon, voilà, mais c'est un peu vers ça que j'essaie d'aller, comprendre quels sont les qu'est-ce qui fait peur, où est caché le loup dans la traduction et dans l'écriture. Et je dois dire que voilà, que l'invasion de l'Ukraine, alors j'ai dit tout à l'heure que, enfin, j'ai énuméré les points de déstabilisation, mais il y a aussi la question de la langue est aussi très importante, parce que je suis passée au français très très rapidement pour diverses raisons, et parmi ces raisons, il y avait la question de la violence que véhiculait la langue russe, pas en tant que langue, mais parce que dans cette langue, il s'est passé énormément de choses très sanglantes. Alors je ne dis pas que les autres langues sont innocentes, hein, loin de là. Bon, et je pense que la langue française est aussi, enfin toutes les langues, toutes les cultures sont certainement violentes, mais moi je vivais dans cette langue-là. Les violences qui s'étaient passées dans d'autres langues, en l'occurrence en français, ne me concernaient pas à l'époque. Voilà. Donc et en fait, je suis rattrapée par cette question-là. Et par du coup, j'habite le français encore différemment, peut-être, hein, depuis le 24 février.
Pour en revenir à ce bruissement, ou ce brouhaha, ou cette rumeur de la langue, tu parles de... Il y a des termes, tu emploies des termes extrêmement, extrêmement forts. Tu parles de chaos initial. J'entends bien qu'il y a, surtout quand on a affaire au texte, à un texte écrit par un autre, qu'on reconstitue en quelque sorte, ou qu'on... on essaye de refaire exister ce chaos dont on sent, à partir dans son expérience propre, qu'il est là à l'origine, en fait, de tout ce qui peut se formuler par écrit ou par la parole. Donc il y a là une sorte d'exercice assez étrange, où on se laisse finalement envahir par une forme de chaos qu'on suppose avoir été là et pour pouvoir, si j'ose dire, prendre pied dans la langue. Et il y a une manière effectivement de se mettre en danger, tant dans l'écriture en son nom propre que dans la traduction. Et il me semble que c'est presque inhérent à l'exercice, si tant est qu'on veuille aller explorer cette dimension-là, mais parce que ça a profondément à voir avec le matériau, le matériau linguistique en tant que tel, et surtout peut-être en tant qu'il s'attache à formuler quelque chose qui, par définition même, est à l'origine informulé, et donc angoissant. Donc on a affaire, on sent très bien que l'angoisse est une donnée majeure en fait, de ton travail. Et parallèlement à ce chaos, tu emploies également des termes comme muselé, par exemple. Donc il y a... je l'ai relevé parce que ça m'a frappé. Il y a donc un effort vraiment très, très, très puissant pour... c'est presque une lutte avec la langue pour ne pas se laisser, à la fois il faut se laisser déborder si on veut que quelque chose advienne, et en même temps il ne faut pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné construire quelque chose qui va permettre de canaliser cette violence initiale. Et donc c'est là d'une certaine manière que les choses se jouent pour toi dans la traduction, dans ce travail de canalisation en quelque sorte, ou une façon d'apprivoiser le chaos.
Oui, certainement. C'est-à-dire que quand on a un texte, ce texte il est achevé, voilà, il est terminé. Or moi je vais faire une traduction de ce texte, donc je sais admettre qu'il n'est pas terminé puisqu'il aura une vie, sa vie va continuer. Et les traductions, c'est véritablement, pour moi, ça fait partie de la vie du livre. Et donc, comment m'y retrouver ? Voilà, j'ai un texte terminé, mais par le simple geste de traduire, je le détricote, je le défais pour faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je lui donne un autre statut, je lui donne le statut d'un texte qui est en devenir. Et pour qu'il y ait devenir, il faut que je retrouve d'une certaine façon, alors évidemment c'est figuré, c'est construit, mais il faut que je retrouve quelque part quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut que je donne à ce texte, il faut que je le renvoie au magma dont il est sorti. Il faut que j'invente ce magma, mais évidemment tout cela pour de nouveau l'organiser et en faire quelque chose de terminé pour l'instant. Et les traductions sont encore moins terminées que les textes originaux, mais à vrai dire, c'est vrai que ces va-et-vient entre l'écriture et la traduction m'amène à être un petit peu à nuancer la notion même d'original.
Il me semble que une chose que tu montres très bien et qui est, je crois, liée à ce que tu viens de dire sur cette façon de reconstituer en quelque sorte le magma, c'est juste une petite parenthèse parce que ça me faisait penser à une chose survenue lors d'une traduction que je faisais il y a quelques années. Tout d'un coup, c'est ces choses qui adviennent parfois, on s'approche tout d'un coup sans avoir du tout cherché de quelque chose qui est présent dans le texte et probablement chez l'écrivain, de l'ordre d'un informulé, d'un sentiment très fort, et c'est particulièrement dérangeant en fait comme expérience. Et en l'occurrence c'était une expérience, ce que je sentais c'était du deuil, de la tristesse et de l'angoisse n'était pas explicitement présente dans le texte, mais tout d'un coup, c'était là, dans les mots, dans le rythme, dans la phrase, et très étrangement, le texte suivant que j'ai eu à traduire de ce même auteur qui venait de paraître, parlait de la perte d'un frère. Il y a des rencontres parfois très étranges, et je dirais pour moi, ça, cette expérience-là, ça fait partie de ce magma, de ce qui anime le texte sans que ce soit du tout forcément conscient d'ailleurs chez l'écrivain, et que parfois on est amené à toucher un peu involontairement parce que on fait un travail où on est vraiment en prise avec des choses qu'on soupçonne pas toujours. Mais voilà, donc c'est un peu pour illustrer d'une certaine manière ce que j'ai pu vivre de cette façon-là. Mais ce qui du coup prend une très grande importance, et je crois que c'est très, très sensible dans ton texte, c'est l'imaginaire du traducteur. À quel point tu le mets en œuvre de façon très consciente pour faire ce travail-là.
Oui, là, je pense que effectivement, la traduction et l'écriture se rejoignent d'une certaine façon. Moi, je suis très visuelle, donc je ne sais pas. Voilà, ça, c'est ma façon de travailler. Mais par exemple, quand j'ai donné des cours de traduction, je ne le fais plus parce que je n'ai pas de théorie, je n'ai pas de méthode à transmettre. Mais quand j'en donnais, ce que je disais à mes étudiants, c'était si vous ne pouvez pas visualiser ce que vous êtes en train d'écrire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment. Alors, j'ai peut-être tort, hein, mais pour moi, c'est un fil conducteur. C'est-à-dire, il faut que. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il m'est arrivé de cuisiner tellement l'auteur que j'étais en train de traduire, parce que je disais mais je ne vois pas, et il m'expliquait, je disais mais je ne vois pas, et il a fini par admettre que la scène qu'il décrivait n'était pas possible. Donc on a dû la changer, mais voilà. Donc pour moi c'est extrêmement important de pouvoir imaginer ce que je suis en train d'écrire. Et c'est la même chose, c'est la même chose dans l'écriture. Alors ça peut être une chose totalement folle, hein, mais il faut que je puisse la dessiner mentalement. Et donc je pense que sans cela, je pourrais pas traduire s'il n'y avait pas cette visualisation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais,
si, enfin, je pense que là, on a chacun notre façon de faire. Je sais que je suis aussi très visuelle, c'est-à-dire que j'aurais tendance à aller vers quelque chose de similaire, c'est-à-dire que je dois pouvoir effectivement visualiser ce que je traduis. Et je crois que c'est peut-être une manière de recréer un monde, en fait, qui tienne véritablement. Et si ça fonctionne pas, c'est souvent, alors ça peut être de mon fait, mais c'est souvent aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui manque dans le un élément en fait qui manque dans le texte. Tu as évoqué cette question là en entrée, de cette façon de déambuler dans la ville, alors qui a pris une importance particulière au moment du confinement, mais où la marche, parce que en fait tu engages tout le corps quand tu travailles, quand tu traduis, et j'ai l'impression aussi que la poésie pour toi, c'est une poésie qui se formule physiquement, corporellement. Peut-être que tu nous parles de ce travail très particulier.
La déambulation a une très grande place à la fois dans l'écriture, et ça dépend du type d'écriture. C'est-à-dire si effectivement je suis dans un récit, je ne vais pas déambuler, hein, je vais rester devant mon ordi. mais à partir du moment où il s'agit d'une écriture fragmentée, la marche favorise la formule. Quelque chose de bref, de haché et de lapidaire. Et ça, je ne le trouve qu'en marchant. Et très souvent, quand je bloque sur... justement, il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir, et ça m'arrive de passer des heures à torturer une phrase pour... non, ça, je ne le vois pas. Enfin, c'est pas comme ça. Et puis, je me mets à marcher et tout d'un coup, l'image vient. Et ça, je m'en suis aperçue. Bon, alors, je voudrais préciser tout de suite que ça fait très peu de temps que je me permets de traduire de la poésie par toute petite bribe. Parce que je ne me sentais absolument pas légitime pour le faire. Et c'est en traduisant des textes en prose de Tsvetaeva que je me suis trouvée confrontée à la nécessité de traduire les citations, les longues citations de Pasternak et de Mandelstam qu'on trouve dans ces textes. Et c'est là que bah, je n'y arrivais pas, jusqu'au moment où je me suis mise à déambuler et j'ai découvert cette capacité du corps à souffler les mots. Et ça se passe comme si, en fait, j'imagine que le poème en français existe déjà. Enfin, c'est un peu comme l'histoire du cheval et du sculpteur. Enfin, il suffit d'enlever ce qui masque le cheval qui est dans le marbre pour le faire sortir. Ben, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression que le texte existe quelque part et qu'il faut que j'aille le cueillir. Et pour ça, il faut marcher. C'est un peu comme dans un conte pour trouver ces phrases, ces vers qui sont... Qui existe. Parce que quand on a un rythme dans la tête, hein, moi j'essaie, quand je traduis de la poésie, j'essaie de garder le rythme, la rime, et du coup ce rythme que j'ai dans ma tête, mais c'est comme une, je ne sais pas, comme une enveloppe, il faut bien qu'il y ait quelque chose dedans, donc ça va être là, en fait. Il faut simplement le capturer. Donc la déambulation, c'est ça, c'est partir à la recherche des mots qui se cachent. Alors ma déambulation est souvent très urbaine, et c'est les façades, les irrégularités des rues, des maisons qui permettent de capturer ces mots, comme s'ils étaient inscrits sur les façades, mais en encre sympathique, il faut les trouver. Je marche à mon rythme, laissant chacun de mes pas contredire le précédent. Mes itinéraires sont guidés par les promesses d'horizon, au bout de telle ou telle rue. Sur les placettes en étoiles de Paris, les rayons montent. Vers où? C'est ce qu'il s'agit d'aller voir. Les obliques m'appellent à les arpenter. La courbe se termine en boucle et je reviens. Mon pas est atteint d'arythmie. Je participe ainsi à l'œuvre de conservation des ponts. En 1850, un pont s'écroule à Angers pendant le passage d'un bataillon au pas cadencé. Le pont est entré en résonance avec les pas des soldats et les a jetés dans le vide. Le pont a écouté la musique des pas. Il s'est retourné sur lui-même, pas de douleur comme chez Kafka, mais de trop d'harmonie. Quand je suis sur un pont, j'ai peur qu'il m'entende. Un poème ne change rien à la marche du monde. Certes, que je traduise Kodasevitch avec des rimes intérieures ou non, l'épidémie de coronavirus poursuit sa courbe. Pourtant, la résonance peut faire tomber un pont. La résonance peut même faire tomber du pont. Le poète, dans la Seine, Paul Celan, en 1970, Gerasim Luka, en 1994. Veillez à ce que cela ne se produise pas. C'est cette responsabilité qui m'incombe lorsque j'ai un poème entre les mains. Non, dans la poche, car j'aime marcher les mains libres. Dans la bouche, faire extrêmement attention à ce que les vibrations du poème ne provoquent pas d'oscillation trop violente. Veiller sur la ville, voir ses cordes, les cordes qu'il pleut. Là, quelque part suspendue à ses ligatures, la mélodie du poème va rencontrer les fibres de la ville. La ville aussi sur ses fondements. Pour percevoir ses pulsations, je dois mettre en déroute celle que l'original du poème a imprimée en moi. Quelque chose va émerger que je m'en vais écouter. Entendre, c'est étreindre. Et je me rends compte que je veille beaucoup, en fait.
Oui, voilà, je crois que personnellement, c'est un des passages que j'ai trouvé les plus magnifiques de ton texte. Et peut-être, j'aurais envie de te demander comment tu as écrit ce texte-là, très disparate dans sa forme. Il est par moments extrêmement fragmentaire. Il y a parfois une phrase par page, parfois de longues pages qui se suivent, qui construisent un récit qui n'est pas un récit discursif, mais quelque chose qui est de l'ordre de la déambulation, comme ce que tu viens de nous lire. Comment l'as-tu écrit? Comment es-tu sortie de chez toi, d'une certaine façon?
Mais en fait, là, j'étais quand même un peu chez moi, parce que oui. J'écris toujours de cette manière-là. J'écris toujours par fragments. Ça ça étonne certains. Mais après, simplement dans un texte, dans un roman, je vais recomposer les fragments, c'est-à-dire il va y avoir un très grand travail de montage. Et là, le travail de montage n'a pas été le même. C'est-à-dire j'ai laissé, voilà, j'ai laissé les fragments. On en a beaucoup discuté d'ailleurs, voilà, avec Benoît et Anna. J'ai laissé les fragments parce qu'il me semble que ça correspondait, voilà, au projet. C'est la première fois que j'écris vraiment sur la traduction, parce que j'ai déjà pas mal écrit sur le bilinguisme et en fait, oui. Bon, dans Au lieu du péril, par exemple. Et en fait, ben, je sais pas, tous les 10 ans à peu près, j'écris quelque chose sur ce que c'est que de vivre entre deux langues. Je fais le point. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, par rapport à ce que j'ai écrit dans Au lieu du péril, qui est sorti en 2014, il y a plein de choses qui ont changé. Qui ont changé justement à cause de la guerre, à cause de l'invasion de l'Ukraine, de mon positionnement d'émigré par rapport à la Russie actuelle. Mais voilà, donc je fais le point régulièrement, pas toujours dans un livre, mais parfois c'est un récit, c'est un petit texte. Et c'est la première fois qu'il s'agissait de parler vraiment de la traduction en tant que telle, et pas simplement de ma vie de bilingue, de ma vie dans deux langues. Évidemment, c'est très lié, mais du coup, voilà, cette forme fragmentée s'est imposée parce que je suis allée chercher finalement, ben, je me suis dit c'est l'occasion de me poser des questions que je n'aurais peut-être pas posées sous cette forme-là, en parlant de bilinguisme. Et notamment ce que tu évoques sur l'angoisse, sur les limites aussi, sur les limites de cette expérience, sur les frontières, sur ce qui n'est pas, sur ce qui ne se donne pas avec les mots, ce qu'on ne peut pas saisir avec les mots. Et du coup, j'ai vu ça comme une sorte de mosaïque.
Alors nous avons évoqué au début la parution de ces deux livres et le fait qu'il y avait une chronologie, et tu l'as bien expliqué, à un moment donné il a fallu arrêter ce que tu étais en train de faire pour t'emparer de ce qui venait de surgir en fait. Et il y a effectivement un fil, on peut retracer un fil du rapport à la langue qui se manifeste dans Sortir de chez soi et dans Quand nous nous sommes réveillés. Et il me semble, peut-être que je grossis le trait, et là j'aimerais que tu me dises ce qu'il en est, que dans cet ouvrage de réveil au moment de l'invasion de l'Ukraine commence à se mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la suspicion et une façon de soupçonner ce que dit la langue ou ce qu'elle s'efforce de ne pas dire tout en le disant, et une dimension qui est absente de ce que tu décris dans l'expérience de la traduction.
Oui.
C'est peut-être un peu sommaire.
Non, mais c'est vraiment une très grande question. Disons que, voilà, je m'étais... de toute façon, quand je dis je fais le point tous les 10 ans... Ça veut dire que tous les quelques années, il y a un nouveau récit sur ce que je vis. En fait, je me re-raconte chaque fois de manière différente. Et d'une certaine façon, je veux dire, même quand on essaye de ne pas éviter les gouffres, d'une certaine façon, j'étais arrivée à un récit assez heureux. Voilà, de cette vie entre deux langues. D'ailleurs, parfois, je me suis rendu compte que j'allais complètement en contre-courant d'une vision de l'émigré, de l'exilé, qui doit être malheureux, qui doit souffrir sans sa patrie et qui doit être dans le déchirement. Et moi, je ne me suis jamais reconnue dans cette... même dans les travaux universitaires sur... Alors, ça dépend de l'exil, évidemment, si on a fui la Syrie, bien sûr. Mais voilà, moi je n'avais pas de, d'expérience, en tout cas directement traumatique quand je suis partie. Enfin, mon départ s'est fait de manière relativement, voilà, alors, relativement, enfin, voilà, je suis partie. Enfin, je suis pas restée 10 ans à attendre le. J'ai pas été dans les refuges uniques. J'ai eu l'autorisation de partir tout de suite. Mon installation en France aussi s'est bien passée parce que nous avions de la famille en France, d'ailleurs, qui est présente. Et voilà, donc je n'ai pas vécu de grands traumatismes. Et ce récit heureux a été bousculé. En fait, quelque part, je ne suis plus dans cette. Dire c'est très étrange, hein, mais je suis en train de vivre presque 50 ans plus tard ce désarroi que je n'ai pas vécu quand je suis venue en France et qui a été. Voilà, qui se réveille au contact des exilés d'aujourd'hui. C'est-à-dire comme si, bon, moi j'avais 16 ans quand je suis arrivée, donc à 16 ans on pense à l'avenir, on veut s'intégrer, on pense à ce qu'on va devenir, etc. Donc j'étais toujours là, j'étais dans le futur et pas dans le passé. Et voilà, il y a quelque chose qui me rattrape aujourd'hui de ce moment où j'ai décidé de passer au français. Et c'est peut-être là que voilà, les choses ne sont pas aussi, aussi lisses qu'il a pu me sembler, à l'époque. Voilà, et là. Enfin bon, je ne veux pas non plus donner l'impression que j'avais voilà, que j'étais dans une sorte d'innocence béate par rapport à la langue. Mais il y a quelque chose qui est très déstabilisant aujourd'hui par rapport à cet équilibre-là. Voilà. J'ai trouvé vraiment un équilibre entre les deux langues, qui se manifeste aussi par la traduction, par le fait que j'enseigne la littérature russe. Enfin, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé comment conserver la langue russe, mais sans voilà, tout en faisant du français. Ma langue d'écriture et aujourd'hui je ne sais pas le lendemain je pense du 24 février j'ai dîné avec un ami qui est un vieil immigré comme moi mais on parle russe entre nous toujours et on s'est tout d'un coup on s'est surpris en train de parler français. On n'avait pas envie de parler russe ce jour-là. Alors voilà, je ne suis pas du tout pour boycotter la langue russe, la culture, ni quelque culture que ce soit, mais je veux dire, c'était une sorte de réaction absolument incontrôlable, hein, incontrôlée. Voilà, et là, quelque chose, évidemment, dans cet équilibre, c'est rompu, c'est sûr.
Oui, et ce qui est très perceptible dans ce texte aussi, c'est que tu traques le mensonge, en fait. Et ça, c'est. Et là, enfin, là, on sent une sorte d'urgence à essayer de déceler ce qui. Ce que disent certaines expressions employées dans la propagande. Pour essayer de rétablir remettre les choses à l'endroit, d'une certaine manière.
Oui, en fait, quand j'ai dit que je m'occupais du passé, des violences du passé. C'est sûr que les violences du présent. Alors, comment dire, j'étais entre deux extrêmes. C'est-à-dire, d'un côté, on se dit, mais à quoi ça sert aujourd'hui de réfléchir sur ce qui s'est passé, je ne sais pas, en 41, alors qu'il se passe des choses qui sont semblables. Et d'un autre côté, les mensonges de la propagande russe utilise ce passé. Et donc, d'un autre côté, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est absolument nécessaire de rappeler ce qui s'est passé exactement, de rétablir tout simplement l'histoire qui est complètement falsifiée par la propagande. Donc voilà, j'étais entre ces deux pôles. Et puis, Et c'est aussi un rapport, enfin, ça m'a touchée aussi dans mon rapport à la langue, parce que j'ai quand même passé mon enfance dans un pays où le mensonge était absolument généralisé. Et où donc il fallait dire blanc quand c'est noir et noir quand c'est blanc. En fait, il fallait absolument contrôler sa façon de parler, donc dire une chose à l'extérieur, une autre chose à la maison. Et voilà, et je vois ce mensonge revenir et en plus toucher certaines personnes ici, hein, parce que tout le monde n'est pas vacciné contre les mensonges de l'État russe.
En t'entendant dire cela, je me dis que la traduction, du coup, puisque tu parles de dire blanc, c'est noir, etc., la traduction prend une singulière, un sens très singulier. Et j'avais envie de citer justement à l'appui de ce que tu viens de dire, cette phrase que j'ai relevée, et je crois d'ailleurs que tu y as fait référence sans la citer tout à l'heure, et tout en disant, voilà, je dis quelque chose mais je le déconstruis l'instant d'après, sauf qu'il y a quand même cette chose-là qui est écrite noir sur blanc. Écrire, c'est s'abandonner, et traduire, se contenir. Donc on pourrait, je veux dire, c'est un sujet de dissertation merveilleux qu'on pourrait, voilà, qui pourrait prêter vraiment à des développements à infini, mais compte tenu de ce que tu viens de dénoncer, je trouve que c'est assez troublant de voir comment on est obligé de se positionner dans l'usage de la langue et donc de trouver des biais d'accueillir ce qu'il y a, de l'enfermer. Enfin, c'est vraiment pas simple.
Non, c'est sûr. non, c'est vrai que bon, cette phrase, oui, je pense qu'on peut aussi dire le contraire.
Bien sûr.
Mais il y a quelque chose de l'ordre de voilà, s'éparpiller et se ramasser. Il y a ce mouvement-là qui existe certainement dans les deux formes d'écriture. Voilà, moi j'ai l'impression de me dissoudre dans la langue, mais après il faut remettre toutes les molécules ensemble et voilà, reprendre forme.
Je trouve que c'est une belle parole de conclusion, reprendre forme. Sauf si tu as d'autres choses que tu souhaites ajouter.
Je ne sais pas, peut-être que s'il y a des questions, il y a des choses qui vont me revenir. Voilà. Merci.
On s'arrête là. Merci beaucoup, Luba. On va donc s'arrêter là pour ce qui concerne cet échange. Et maintenant, nous vous laissons la parole parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser sur ces deux textes. Voilà. Sophie, si tu veux bien faire circuler le micro aussi, peut-être.
Oui, j'ai pas tellement réfléchi exactement à ma question, mais ça m'a surpris quand vous avez dit que le langage russe, en fait, que la langue russe était quasi insupportable au moment de l'invasion de l'Ukraine, est devenue insupportable, alors qu'en ayant travaillé sur le passé, et pas n'importe quel passé, un passé également insupportable, j'imaginais que non pas que vous étiez habitué, mais que ça aurait pu faire un. Ne pas vous surprendre
Effectivement, je n'étais pas surprise. non, je sais pas sur mon temps. Peut-être, oui. Non, il n'y avait pas de surprise, je m'y attendais. En fait, c'est ça aussi qui est très étrange, c'est que cette invasion, moi j'étais persuadée qu'elle aurait lieu, et pourtant l'effet de sidération n'en était pas moindre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très bouleversant. C'est pas parce qu'on s'attend à quelque chose qu'on n'est pas pris au dépourvu au moment où ça arrive. Et encore une fois, c'était vraiment inconscient. Et ça m'a fait penser à un autre épisode qui est lié aussi à la question de la langue. Un épisode qui remonte à mon séjour à Vienne, donc en 1975, quand je venais de quitter l'Union soviétique. Et on attendait à Vienne, de pouvoir. On attendait le visa pour la France. Et donc, tous les émigrés passaient par Vienne, ce qui fait qu'il y avait une sorte de communauté éphémère qui se créait, se décréait, se défaisait. Et le premier soir, on se retrouve à plusieurs, donc tous les gens qui sont partis au même moment de différentes villes, et on se défoule en racontant des histoires drôles, politiques, qu'on ne pouvait pas raconter ou qu'on ne pouvait raconter qu'en cercle restreint. Et à un moment, donc on a passé 4 heures, je pense, à raconter des histoires drôles, et à un moment, on s'est regardé et on s'est rendu compte qu'on chuchotait. Voilà. Et c'était quelque chose qu'on s'en est pas rendu compte. Mais on, voilà. Donc je pense que la langue, enfin je saurais pas, je suis incapable aujourd'hui d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, pourquoi on a parlé français. On s'en est pas rendu compte parce qu'on est francophones tous les deux aussi. Donc et vous savez les bilingues. Parfois ne savent pas quelle langue ils parlent. Oui. Et donc, mais à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, on parle français. Alors, est-ce que c'était parce qu'on n'avait pas envie qu'on nous entende parler russe, peut-être ce jour-là ? C'était peut-être, il y avait peut-être aussi quelque chose comme ça. On ne voulait pas apparaître comme russe aux yeux des gens qui étaient autour. Voilà, c'est peut-être ça aussi. C'était peut-être plutôt une sorte de honte, pas de la langue, mais d'une supposée appartenance, parce que voilà, si vous m'entendez parler russe, vous ne savez pas forcément, surtout si vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas si je suis partie, voilà, si je vis ici en tant que, si je suis une femme de diplomate ou si je suis une émigrée. Donc bon, mais tout ça, c'est des raisonnements d'après, voilà. Sur le moment, on s'est simplement on a fait ce constat un peu étonnant.
Non, mais vas-y, Rosy. Attends, on va te donner le micro pour l'enregistrement.
Ah oui, Emma, on entend, ça marche. Ouais.
Moi, j'ai juste envie de vous remercier comme traductrice parce que je me suis absolument régalée. Et je voudrais rappeler 2 titres auxquels je pensais tout le temps en vous écoutant. Loba, au lieu du péril. Et toi, Corinna, traduire ou perdre pied, et c'est comme si vous n'avez parlé que de ça.
Pas impossible, oui.
Comme ce lieu du péril de l'entre-deux. Oui. Et avec ce que tu viens de dire à l'instant, Loba, j'ai eu encore plus l'impression, y compris en rendant hommage à cette collection qui est possible grâce à Benoît Berry qui se trouve ici, de l'importance de ce travail, oui, que nous faisons, qui est une forme de résistance. Parce que, et je veux dire, dans le travail de traduction que nous faisons, c'est en permanence empêcher que l'Ukraine arrive. Évidemment qu'on n'empêche rien, mais on essaye ça.